VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 1er août 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Pour commencer avec les titres, au Zimbabwe, c'est officiel. Le parti au pouvoir décroche la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale.
En République démocratique du Congo, retour ce mercredi à Kinshasa de l'opposant Jean-Pierre Bemba.
Au Congo-Brazzaville, levée officielle du mandat d'arrêt lancé contre le pasteur Ntoumi Dupoul.
En République centrafricaine, trois ressortissants russes ont été retrouvés morts hier à 200 km de Bangui, la capitale.
Au moins quatre militaires maliens et huit djihadistes présumés ont été tués mardi dans le centre du Mali.
Publication hier de la feuille de route de la CEDEAO pour mettre fin à la crise politique au Togo.
Facebook, ici aux États-Unis, révèle des tentatives de manipulation coordonnée des élections américaines.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant,
le journal.
Alors, comme annoncé, au Zimbabwe, le parti au pouvoir depuis 1980, la ZANU-PF, a obtenu la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale lors des élections législatives de lundi, les premières depuis la chute du président Robert Mugabe, selon des résultats officiels annoncés aujourd'hui. Sur 153 circonscriptions dont les résultats ont été compilés, la ZANU-PF obtient 110 sièges, tandis que le MDC, Mouvement pour le changement démocratique, obtient 41 sièges, a annoncé le groupe audiovisuel public ZBC, citant les résultats de la commission électorale. L'Assemblée nationale compte un total de 210 sièges.
République démocratique du Congo maintenant, l'opposant Jean-Pierre Bemba de retour aujourd'hui à Kinshasa après avoir passé 10 ans à la Cour pénale internationale. Bien qu'il soit en liberté provisoire, le leader du mouvement de libération du Congo vient déposer sa candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain et se dit déterminé à remporter ce scrutin. Retrouvons à Kinshasa Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire.
C'est à 9h heure de Kinshasa que l'avion qui ramène Jean-Pierre Bemba au pays va se poser à l'aéroport international de Ndjili. Par la suite, l'ancien vice-président de la RDC devrait être porté en triomphe par ses militants de l'aéroport jusqu'à sa résidence à Gombe. Aucun meeting n'est prévu, souligne F. Bazaïba, secrétaire général du MLC. Jean-Pierre Bemba doit ensuite se rendre à Gemena dans le sud Ubangi le samedi 4 août prochain pour s'incliner devant la tombe de son défunt père. Mais contrairement à celui de Bemba, l'avion de Moïse Katumbi n'a pas encore reçu l'autorisation d'atterrir à l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi le vendredi 3 août, date du retour de l'opposant congolais exilé depuis 2016. Joint mardi par Top Congo FM, le vice-premier ministre en charge du transport, José Makila, a affirmé n'avoir reçu aucune demande de survol et d'atterrissage de l'avion de Katumbi, contrairement à ce qu'affirmait la plateforme électorale de l'opposant qui a par ailleurs annoncé que Moïse Katumbi va lui-même déposer sa candidature à l'élection présidentielle le samedi 4 août 2018 au siège de la CENI. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, le gouvernement a officiellement annoncé hier la fin des poursuites contre le pasteur Ntoumi, contre lequel le procureur de la République avait lancé un mandat d'arrêt. Devenu ainsi libre, le pasteur Ntoumi peut maintenant encourager ses miliciens à déposer les armes et à intégrer le processus de désarmement dans le pool. De Brazzaville, des détails avec Arsène Séverin.
Le pasteur Ntoumi, poursuivi depuis 2016 pour acte de terrorisme, est désormais libre de ses mouvements. Le procureur de la République, dans un arrêt rendu le 27 juillet dernier, a mis fin à toutes les poursuites. Le porte-parole du pasteur Ntoumi, Philippe Anebibi, qui est assisté à la cérémonie annonçant cette mesure par le ministère de l'Intérieur, a indiqué que désormais c'était l'heure de la paix, appelant les ex-ninjas à se rendre dans les centres de désarmement dans le pool pour déposer leurs armes. Au cours de la cérémonie de cette levée de poursuite, le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Séraphin Ondélé, a par ailleurs annoncé le calendrier des opérations de désarmement des ex-combattants, assurant que le gouvernement disposait de tous les moyens nécessaires pour mener à bien cette opération. Les ninjas vont rejoindre des sites déjà identifiés dans le pool et seront désarmés du 2 au 25 août prochain. Le pasteur Ntoumi s'était retiré dans les forêts du pool depuis l'attaque armée en avril 2016 dans les quartiers sud de Brazzaville. La police avait alors utilisé des gros moyens dans les hélicoptères de combat pour le traquer. Larsen Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En République centrafricaine, 3 ressortissants russes ont été retrouvés morts mardi matin. Ils auraient été enlevés puis tués dans une localité située à environ 200 km au nord de Bangui. On ignore encore pour le moment les circonstances dans lesquelles ces hommes ont été tués et ce qu'ils faisaient dans cette région de Bangui. Précision de Freeman Sipila.
Les 3 ressortissants russes ont été retrouvés morts dans un village situé à une 20aine de kilomètres de Sibut sur l'axe d'Ekwa. Selon les premières informations reçues par VOA Afrique, les 3 hommes ont été vus pour la dernière fois dans la nuit du 30 juillet à la sortie de Sibut. Marcelin Yoyo, député de cette localité.
Ils sont arrivés à Sibut aux environs de 18h à la barrière qui se trouve à la sortie de Sibut sur l'axe d'Ekwa. Ils étaient retenus là. Les forces qui étaient là, les forces de défense et de sécurité. Et donc ceux-ci leur ont dit de ne pas aller parce qu'il fait déjà. Ils ont insisté, ils sont partis. Et donc, c'est entre le village Kenepaku, c'est-à-dire à 24 km de la ville de Sibut, qu'ils étaient kidnappés par environ 10 malfaiteurs qui étaient tous enturbanés et ils ne parlaient que l'arabe.
Les papiers retrouvés sur les cadavres laissent croire que les 3 hommes étaient des journalistes. Ces hommes étaient-ils réellement des journalistes? Que faisaient-ils dans cette région dans la nuit? Pourquoi ont-ils été enlevés et tués? Qui était leur ravisseur au stade actuel? Il est difficile de répondre à toutes ces questions. Les cadavres récupérés par la gendarmerie nationale et gardés plusieurs heures à la base de la MINUSCA étaient transférés mardi soir à Bangui. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au moins 4 militaires maliens et 8 djihadistes présumés ont été tués hier dans le centre du Mali où une mission de sécurisation des opérations électorales est tombée dans une embuscade. Selon des sources militaires et administratives, le bilan pourrait encore s'aggraver car 2 véhicules de l'armée malienne et ses occupants n'ont pas encore été retrouvés. L'embuscade a eu lieu dans la région de Ségou, dans le centre du pays, où s'était produit la plupart des incidents qui ont perturbé le premier tour de l'élection présidentielle de dimanche.
La feuille de route de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, pour mettre fin à la crise que traverse le Togo depuis bientôt un an, a été rendue publique hier au terme du 53e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté. La CEDEAO fait une série de recommandations et met en place un comité de suivi des dites recommandations. Les grandes lignes de cette feuille de route avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Les élections législatives se tiendront le 20 décembre prochain au Togo. C'est une décision de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Mais avant d'aller à ces élections, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO recommandent aux autorités togolaises de procéder à une révision intégrale du fichier électoral et d'améliorer le cadre électoral. Si la conférence des chefs d'État encourage la poursuite du dialogue en vue des réformes consensuelles, elle suggère aussi aux partis au pouvoir et à ceux de l'opposition de passer par le Parlement pour les réformes et au cas échéant à une consultation référendaire. Dans ses propositions de résolution de la crise togolaise, la CEDEAO invite le Togo à opter pour la limitation de mandat présidentiel à 2 et pour des élections à 2 tours. Elle recommande également une recomposition de la Cour constitutionnelle et une limitation du mandat de leurs membres. La CEDEAO demande par ailleurs au gouvernement de donner la possibilité aux Togolais de la diaspora de pouvoir voter dans leur pays de résidence. Pour certains observateurs, la CEDEAO n'est pas allée au bout de sa mission. Elle aurait pu se prononcer aussi sur la candidature de Fornia Singbe en 2020. Kayi Lawson pour VOA Afrique, Lomé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Inquiétude ici aux États-Unis alors que Facebook annonce avoir identifié de nouvelles tentatives de manipulation politique de sa plateforme à l'approche des élections législatives de novembre prochain. Le point avec Nicolas Pineau.
Facebook n'a pas identifié les auteurs de ces manipulations, mais le réseau social américain indique qu'une partie de ces activités est cohérente avec ce que Facebook avait vu de la part d'une organisation russe au moment de l'élection présidentielle de 2016. Au total, ce sont 32 pages et comptes Facebook et Instagram qui ont été identifiés et supprimés. Le plus ancien avait été créé en mars 2017, le plus récent en mai de cette année. comme ce fut le cas pour les publications identifiées comme de la manipulation politique lors de l'élection présidentielle américaine de 2016. Les comptes et pages supprimées abordaient des sujets polémiques susceptibles de jeter de l'huile sur le feu dans la société américaine. Facebook parle notamment d'un appel à manifester contre le fascisme à Washington la semaine prochaine, posté sur l'une de ses pages. Lors d'une conférence téléphonique, les responsables de Facebook ont également indiqué avoir informé les autorités policières américaines ainsi que des parlementaires.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo rencontre cette semaine à Singapour ses homologues de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Au centre des discussions, les plus grands défis sécuritaires de la région, dont la menace nucléaire nord-coréenne. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, sera également à Singapour, mais un haut fonctionnaire du département d'État américain a exclu toute possibilité de rencontre avec M. Pompeo.
En Iran même, le commandant des très influents gardiens de la révolution, Mohammad Ali Jafari, a rejeté l'offre de pourparlers direct du président américain Donald Trump, disant que Téhéran ne permettra jamais de pourparler avec, je cite, « le grand Satan ». Lundi, le président Trump avait, lors d'une conférence de presse, offert de tenir sans condition préalable des discussions avec les dirigeants iraniens.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La CEMAC a besoin de 130 milliards de francs CFA pour relancer l'élevage et l'agriculture. Ce mois-ci, les différentes parties prenantes se retrouveront à Malabo pour conclure un protocole d'accord qui donnera officiellement le coup d'envoi effectif de l'organisation de la table ronde pour mobiliser le financement. Le président tchadien Idriss Déby Itno devra parrainer la table ronde à Bruxelles dans 3 mois. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont signé 4 accords de coopération dans les domaines de l'audiovisuel, de l'économie numérique, de la jeunesse et de la femme. Les deux pays pourront partager les expériences et procéder à l'interconnexion des infrastructures de communication électronique. L'insertion des jeunes coûtera 200 millions de francs CFA. Le fonds de l'amitié sera doté de 250 millions de francs CFA. Entre 2013 et 2017, les échanges commerciaux sont passés de 256 milliards de francs CFA à 320 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 25% sur la période. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a déploré l'inefficacité du système social du pays. La réussite économique du pays a laissé les plus démunis sur le bord du chemin et creusé les inégalités, a fait observer le souverain marocain. Mohamed VI a proposé un système national d'enregistrement des familles pour bénéficier des programmes d'appui social, la refonte du système de santé et un plus grand soutien à la scolarisation.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Coupe nationale du Cameroun commence ce mardi.
La compétition débute par les 32e de finale, vainqueur du championnat qui a pris fin dimanche dernier. Le Coton Sport de Garoua fera face à Sagay FC de Lagdo. Fouvou de Baham donne rendez-vous à Ofta de Kribi. Canon Sport de Yaoundé joue contre Volcan FC de Fumbo. À suivre aussi la rencontre Panthère Sportive de Ndé, Victoria United de Limbé.
Gernot Rohr va rester au Nigeria.
Depuis que le président de la Fédération algérienne de football, Kérédine Zetchi, a parlé d'un entraîneur mondialiste faisant cas des indices sur l'identité du futur sélectionneur des Fenech. Chacun y va de son commentaire. Le nom de Gernot Rohr, mondialiste et francophone, revient assez logiquement, sauf que le technicien franco-allemand est en poste au Nigeria et qu'il n'a pas l'intention de quitter le navire. Je suis satisfait de mon travail à la tête du Nigeria. Tout va bien entre nous et rien ne m'oblige à quitter pour une nouvelle destination, a assuré Gernot Rohr.
L'Ivoirien Serge Nguesson a prolongé avec Nancy.
Tout à fait. Arrivé à Nancy en 2016 en provenance de Diekanou en Côte d'Ivoire, Serge Nguesson a prolongé son bail avec le club lorrain. Il a paraphé un bail d'un an supplémentaire, soit jusqu'en juin 2021. Son précédent bail s'achevait en 2020. Après avoir été longtemps délaissé l'an dernier par Pablo Correa, Vincent Ognon et Patrick Gabriel, Serge Nguesson avait séduit Didier Tolo. Titulaire vendredi dernier contre Béziers pour la première journée de Ligue 2, le joueur de 24 ans a été expulsé à la 68e minute de jeu.
Chelsea propose une revalorisation salariale à Kanté.
Et oui, le milieu de terrain s'est vu proposer par son club un nouveau contrat de 5 ans avec une revalorisation salariale importante. 325 000 euros par semaine, c'est ce que gagnerait le récupérateur de 27 ans s'il signait ce nouveau bail avec le club londonien. Les Blues tentent ainsi de retenir leur champion du monde français que des rumeurs annoncent sur le départ vers le Paris Saint-Germain. Cela doublerait presque le salaire actuel de N'Golo Kanté, estimé à près de 170 000 euros par semaine dans son contrat du moment qui court jusqu'en 2021.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, polémique autour du vote des Burkinabés de l'étranger en 2020. Après que l'Assemblée nationale a adopté une loi électorale indiquant que ces derniers ne voteront pas avec leur carte consulaire, mais plutôt avec leur carte nationale d'identité ou leur passeport. L'opposition n'est pas d'accord avec cette loi qui exclurait bon nombre de Burkinabés à la présidentielle de 2020. Le correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, Lamine Traoré, fait le point.
L'affaire fait grand bruit et les députés de l'opposition ont claqué la porte lundi à l'Assemblée nationale. Nicolas Daé, leur porte-parole.
Les députés des groupes parlementaires de l'opposition, UPC, CDP et PJRN, ne participeront pas à l'adoption du projet de loi en guise de refus de cautionner une telle exclusion des milliers de Burkinabés au scrutin de 2020. Nous vous remercions.
Malgré tout, la loi a été votée à l'unanimité par les députés de la majorité. Les cartes consulaires ne sont donc plus valables. Les Burkinabés de l'extérieur ne vont voter qu'avec des cartes nationales d'identité ou des passeports burkinabés. Le ministre de l'administration, Siméon Sawadogo, qui a représenté le gouvernement à l'hémicycle, a rassuré sur la fiabilité de ces deux documents.
On ne peut pas aller aux élections pour le vote, par exemple, au niveau national. Du président du Faso, sans s'assurer que ce soit les Burkinabés qui votent le président du Faso. Et la preuve donc de la nationalité se trouve dans les documents de votation. Alors que les seuls documents qui permettent donc de faire la preuve de sa nationalité, c'est la carte nationale d'identité burkinabé et c'est le passeport.
De son côté, l'opposition estime que les cartes consulaires doivent revenir dans le jeu électoral pour la présidentielle de 2020. Moussa Zerbo de l'UPC, Union pour le Progrès et le Changement, principal parti d'opposition.
Aujourd'hui, ces pièces-là permettent à nos compatriotes à l'étranger de vaquer tranquillement à leurs occupations sans être embêtés. La question que nous nous posons, est-ce pour des raisons politiques électoralistes, on va mettre en péril le vivre ensemble de nos compatriotes à l'étranger pour cela?
Aussi, l'opposition ne veut pas que les ambassades et consulats soient les seuls lieux de vote, comme l'indique la loi, mais d'étendre à d'autres endroits pour permettre à un maximum de Burkinabés de l'étranger de prendre part au scrutin. À Ouagadougou, les citoyens sont divisés sur la question.
La carte consulaire, c'est le document le plus accessible. Si en lieu et place de ça, on demande le passeport, est-ce que les gens véritablement pourront s'en procurer ou pouvoir participer comme ils se doivent?
Je pensais que c'était mieux de faire voter les gens avec les cartes consulaires. Là, comme ça, puisque tout le monde a déjà ça, il fallait les faire voter avec. Et puis bon, ce serait un vote équitable.
L'opposition annonce des actions de protestation dans les jours à venir. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Nigeria, les principaux groupes de médias dénoncent un projet de loi visant à réglementer la pratique du journalisme. L'Association des éditeurs de la presse écrite et l'Union nationale des journalistes rejettent ce texte qu'ils jugent draconien, primitif et inconstitutionnel. Reportage de Gilbert Tamba, correspondant de VOA Afrique au Nigeria.
Le projet de loi, une fois adopté par le Parlement fédéral, risque de criminaliser la pratique journalistique au Nigeria. Malgré le fait que les lois du pays disposaient déjà suffisamment de dispositions et de recours pour obtenir réparation, le projet de loi est aussi considéré par les médias nigériens comme une tentative d'ingérence dans les activités des professionnels des médias du pays. Wahid Odishile est le président de l'Union des journalistes au Nigeria.
The bill, we consider it to be...
Ce projet de loi est contre la liberté d'expression dans le sens que c'est une tentative de criminaliser le journalisme et la libre expression. Il y a certaines provisions dans ce projet de loi graves qui nous donnent le sentiment que si nous acceptons son adoption par le Parlement, ça sera un désastre pour les médias au Nigeria.
for the press in Nigeria.
Une autre provision du projet de loi crée un conseil d'administration composé des représentants du gouvernement, des organes de médias et des parlementaires qui sera chargé des questions des médias et dont son président sera nommé par le ministre de l'Information. Mais pour le rédacteur en chef du journal Daily Trust, cela est tout simplement inacceptable. Manir Dan Ali.
Just imagine the idea
imaginez l'idée de créer un conseil d'administration au sein duquel plusieurs personnalités nommées par le gouvernement vont s'asseoir pour juger ce que font les médias. Imaginez que le ministre de l'Information s'octroie des pouvoirs pour sanctionner les institutions de médias au Nigeria. Vous pouvez imaginer ce qui va arriver.
Même les maisons des médias comme radio ou télévision pourraient désormais faire l'objet de fermetures par ces conseils en cas d'offense. Maître Sanusi Moussa est avocat au barreau nigérian. Il se dit inquiet et estime que ce n'est pas le rôle d'un conseil d'administration des médias.
The legal implication for me as a lawyer going through the bill.
Après avoir parcouru ce projet de loi en tant qu'avocat, il y a une implication légale. Je suis inquiet du fait qu'on essaie de conférer à ce conseil le rôle d'une cour de justice. Je pense que dans son article 16, quand vous regardez, le projet de loi donne mandat au Conseil pour enquêter les disputes et arriver à une décision. Cela, pour moi, ne doit pas être comme ça.
En tout cas, le bras de fer est engagé entre les médias et le gouvernement qui soutient l'adoption du projet par le Parlement d'une part et entre les dirigeants des organes de défense des intérêts des médias et le Sénat de l'autre qui poussent pour le rejet de ce projet de loi. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les États-Unis ont suspendu les avantages commerciaux dont bénéficiaient les vêtements importés du Rwanda dans le cadre de l'AGOA. L'annonce intervient en réponse aux droits de douane imposés par le Rwanda en mars sur les importations de vêtements d'occasion américains. Pour un éclairage sur l'impact de ces décisions et sur les relations économiques entre le Rwanda et les États-Unis, Dili Diko a joint à Kigali Olivier Nduhungirehe, secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères.
Premièrement, il faut savoir que l'AGOA, c'est un geste unilatéral des États-Unis envers des pays d'Afrique. Ce n'est pas un accord négocié. Et en ce qui concerne le Rwanda, nous allons prendre des mesures pour venir en aide aux entreprises affectées pour trouver d'autres débouchés, d'autres marchés. Mais en tout état de cause, toute décision des États-Unis sur l'AGOA, c'est à la discrétion des États-Unis, puisque c'est un acte unilatéral qui n'a pas été négocié par les parties en présence.
La décision américaine est une mesure de rétorsion aux droits de douane imposés par le Rwanda sur les importations de vêtements d'occasion américains au Rwanda. Alors, pourriez-vous m'expliquer pour quelles raisons est-ce que le Rwanda a-t-il choisi de mettre en place des droits de douane sur les vêtements de seconde main venant des États-Unis?
Ce n'est pas le Rwanda qui a pris cette décision. C'est les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, au sein du sommet de l'East African Community, qui a pris cette mesure pour encourager ou promouvoir l'industrie textile dans notre communauté. Et donc, le Rwanda a maintenu sa décision. Nous avons continué à appliquer la décision qui a été prise pour encourager le secteur textile dans notre région et dans notre pays.
On l'a vu la semaine dernière, le Rwanda a signé plusieurs accords bilatéraux avec la Chine. Il semble donc que les relations économiques entre les deux pays sont au beau fixe. Est-ce qu'on peut dire que les relations sont tout aussi bonnes qu'avec la Chine ou est-ce qu'on se trouve plutôt dans un contexte de guerre commerciale?
Il n'y a pas de guerre commerciale entre le Rwanda et les États-Unis. Malgré ces décisions, on va continuer à travailler avec les États-Unis d'Amérique pour trouver les meilleures conditions à des échanges commerciaux qui soient mutuellement bénéfiques. Et donc, il n'y a pas de crise ou de guerre commerciale, mais on va continuer à travailler ensemble pour que le commerce entre nos deux pays soit dans les meilleures conditions possibles.
C'était Olivier Nduhungirehe, secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères du Rwanda.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Un vaste programme de reboisement a été lancé par 27 pays il y a 10 ans afin de créer ce que l'on appelle la grande muraille verte de l'Afrique, visant à ralentir et inverser les effets de la déforestation dans la région sahélienne. À ce jour, le Sénégal a planté plus de 11 millions d'arbres et la localité de Mbar Toubab est un des centres névralgiques de la lutte contre l'avancée du désert. Précision d'Arzouma Compaoré.
Le Sahel, ceinture semi-aride située sous le Sahara, s'étend du Sénégal à l'ouest à l'Érythrée à l'est et abrite plus de 100 millions de personnes. Les experts disent que les dommages sur l'environnement peuvent être inversés avec des pratiques simples pour retenir l'humidité du sol. Eladji Goudjabi, responsable technique des eaux et forêts de Mbar Toubab, inspecte les arbres plantés dans cette région du Sénégal dans le cadre des efforts de réhabilitation du Sahel.
Vous voyez cette différence. Depuis 2010, les plants ont été plantés et aujourd'hui, on a vraiment une satisfaction. Raison pour laquelle, quand vous venez ici, vous pouvez voir une nette différence entre ce qui a été planté à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, vous, si vous êtes là, vous ne pouvez pas, même pas voir à 200 mètres à l'intérieur, et alors qu'à l'extérieur, vous pouvez voir jusqu'à 500, 400 mètres, même jusqu'à 1 km. Donc cela veut dire que vraiment la Grande Muraille est en train de faire ses efforts.
En plus de ralentir et d'inverser les effets de la désertification, le projet de plantation de murs d'arbres au Sahel vise également à créer des emplois et à améliorer la sécurité alimentaire. La communauté de Mbar Toubab gère une pépinière qui fournit des plantes pour le projet. Les résidents prennent soin des semis et plantent les arbres à un prix modique. Ici, les élèves se joignent à la tâche et partagent même avec leurs parents ce qu'ils ont appris sur la plantation d'arbres. Kumba est une élève de 12 ans à l'école Mbar Toubab.
On a semé des maïs, des tomates, des piments, aubergines. On a récolté ça. On a vendu une partie.
Ibrahima Diawara, directeur de l'école élémentaire de Mbar Toubab.
De 1999 à 2014, l'école a été fermée et réouverte plusieurs fois. Et même, l'école était fermée de 2006 jusqu'à 2014. Il n'y avait plus de cours parce qu'il n'y avait plus d'élèves. Il y avait la transhumance. Les gens transhumés, ils allaient très loin pour chercher du pâturage. Il y avait aussi les mariages précoces et autres. Donc maintenant, avec la Grande Muraille Verte, on mène des activités de sensibilisation. Et il y a aussi d'autres activités qui permettent d'inciter les gens à maintenir leurs enfants à l'école.
Selon les Nations Unies, quelques 60 millions d'Africains pourraient être forcés de quitter leur foyer en moins de 5 ans à cause de la désertification. Cependant, grâce à la Grande Muraille Verte, 50 millions d'hectares de terre pourraient être restaurés dans la région d'ici 2030.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
I'm gonna make you mine.
monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.